Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Le 8 octobre 1963, la chaîne radiophonique réservée aux poètes, aux artistes, aux penseurs trouve un nom à la suite d'un concours lancé auprès des auditeurs. C'est France Culture. La radio appartient à ceux qui l'écoutent. Elle est l'héritière du programme national de la RTF, Radio Diffusion Télévision Française, née après la Seconde Guerre mondiale, devenue France 3 Nationale, 3 en chiffres romains, avec des causeries ici, Gide, Monterland, Jean Amrouche ou encore François Mauriac. Au début des années 1960, la radiodiffusion publique bénéficie d'un bâtiment rond, à la pointe de l'innovation, la maison de la radio. Face à Paris Inter, France 3 Nationale poursuit son chemin sur les ondes, devient donc France Culture, une radio qui ouvre au savoir, à la découverte, avec une toute petite place laissée à l'actualité. Peu d'émissions en direct alors, ah ça a bien changé. Au milieu des années 1970, l'ORTF explose ou impose, allez savoir, France Culture s'impose comme une chaîne de référence. Depuis, le public est de plus en plus nombreux. Merci, merci tellement. France Culture, oui, c'est toujours l'esprit d'ouverture.
Ils sont assis à table.
Écoutez, messieurs, nous ne sommes pas ici pour faire une orgie crapuleuse.
Faites partir à la broche deux estomacs de perdreau.
Un verre de lait de chamel ou un demi-verre de lait de chamel.
C'est bon le lait de chamel ?
C'est pas bon.
Et il faut prendre des précautions. On peut, si on n'y prend pas garde, ingérer comme ça un esprit mauvais.
Ce symbole, comme tous les symboles, finit par se répercuter dans certaines attitudes bourgeoises.
Excepté ceux qui sont tout à fait débiles ou qui sont malades.
Ah, alors là, ça me ferait bien rire.
Ah bah oui, mais ça va nous faire rire. Et Jules, vous êtes là avec nous aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Dessinateur, avec cette limite de la radio, qu'il n'y a pas l'image, et donc dès que je lis le titre de votre livre, La fin de l'histoire, bah le jeu de mots n'est pas perceptible.
Faut l'épeler, parce que c'est fin, miam miam, évidemment, F-A-I-M. C'est évidemment un titre jeu de mots un peu intello qui résonne avec Francis Fukuyama et sa fin de l'histoire un peu terminale et finalement qui était un plantage, contrairement je dirais au banquet perpétuel qu'on raconte dans cet album de d'essais et de bandes dessinées mixées.
Une histoire du monde par la gastronomie. Bonjour, Heitor Alfonso.
Bonjour.
C'est une aventure qui traverse les siècles. Comment on en vient à réfléchir, à raconter l'histoire à travers la nourriture?
Je ne suis pas le seul à le faire. Il y a évidemment plein d'historiens qui le font. Et la recherche en histoire de l'alimentation est très active. Vous en savez quelque chose ici, sans doute depuis les années 80 en France, avec le grand Jean-Louis Flandrin notamment. Alors moi, personnellement, comment j'y suis venu de manière beaucoup plus anecdotique? Pendant le confinement, un beau matin, je me suis réveillé, je me suis demandé, mais bon sang, mais que mangeaient les gens à Woodstock? C'était la bizarrerie de ce confinement qui était une espèce de terreau fertile aux idées les plus saugrenues. Et donc j'ai un peu cherché, et j'ai trouvé des choses incroyables, des anecdotes folles. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un grand fil à tirer. Et j'ai envie de raconter comme ça 20 000 ans d'histoire à travers le prisme de l'assiette.
Heitor Alfonso, vous êtes journaliste, critique gastronomique, et vous tirez des fils qui vous conduisent jusqu'à Jules, dessinateur, scénariste, auteur de bande dessinée, évidemment. Et puis avec les Lucky Luke, avec les 50 nuances de grec, avec Silex and the City, Jules. Comment on vient-on à être séduit par une telle proposition?
Moi, j'ai toujours des propositions qui me viennent chaque semaine avec des choses un petit peu incongrues, l'élevage des poulets, le dressage d'enfants, des choses comme ça. Et chacun m'appelle en disant j'ai une BD qui va révolutionner le paysage littéraire, il faut qu'on la fasse ensemble. En général, je dis non, merci, je suis très occupé, c'est une très bonne idée, mais peut-être dans un autre siècle. Et en fait, Heitor Alfonso, que je ne connaissais pas et qui était ce critique facétieux, et en même temps, j'ai très vite découvert que c'était un chercheur aussi, parce que normalien, agrégé, force de travail énorme, on a travaillé très vite avec ça, il a sourcé tout ce qu'il a raconté, et ce principe d'association, moi, m'avait déjà plu, notamment avec Charles Pépin, qu'on connaît, philosophe, enseignant de philo, et avec qui on avait fait La planète des sages, 50 nuances de grec. Ce mélange de une page de bande dessinée, une page de texte qui dialogue. Et en fait, parfois, je me sens un petit peu seul quand je crée mes albums, et ce nouveau compagnonnage avec Heitor a été une source de joie, et j'ai été revivifié finalement en disant à la fois je retourne à mes propres sources, mes origines, parce que je suis historien de formation, mais en même temps, je fais des bandes dessinées rigolotes, et je plonge dans cet univers que je ne connaissais pas, qui est cet énorme monde de la gastronomie, monde de l'assiette, et bien sûr, moi, je suis gourmand, mais je n'avais pas tout ce degré de détail, et même en tant qu'historien, j'ai découvert perpétuellement, de chapitre en chapitre, parce que c'est construit par manger avec les Romains au moment de Pompéi, manger avec les samouraïs au temps du Shogun, manger avec les Vikings au 9e siècle. Et ce truc-là, à chaque fois, j'ai plongé dans ce menu-là, et c'était toujours très très excitant d'échanger.
Avec l'école normale, on vient de la citer, l'agrégation. Vous, Aitor Alfonso, c'est quoi comme agrégation ?
Moi, je suis agrégé d'espagnol et je suis, j'ai fait des mémoires et une thèse que j'ai pas finie, mais sur le siècle d'or. Je suis siècle d'oriste. Moi, j'ai travaillé sur le médecin de Charles Quint et des rois catholiques, qui était figure du sérieux médical et en même temps un amuseur de cours, un bouffon.
Eh oui, parce que France Culture, eh oui, école normale, agrégation.
On a la carte,
C'est bon.
Non, mais vous en pensez quoi d'ailleurs au moment de proposer un ouvrage qui est à la fois de la vulgarisation historique, une proposition décalée et puis une synthèse de travaux sérieux, d'avoir cette carte que nous évoquons?
Il y a toujours eu comme ça des gens un peu...
Ouais, oui, c'est pas qu'une carte, c'est aussi une approche. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on aime l'approche sérieuse, sérieusement sourcée, quoi. Voilà, on a une approche universitaire du savoir. On veut pas dire n'importe quoi, ni véhiculer des contre-vérités. Et en même temps, on est tous les deux, je crois, des partisans du gai savoir, donc d'une manière joyeuse et légère et humoristique de le dire.
Il y a toujours eu ces grandes figures de l'histoire populaire, en fait. L'histoire pop de Alain Decaux, en passant par, d'autres gens de radio, de télé, un Stéphane Bern, voilà, avec Secrets d'Histoire, des choses comme ça. Et il y a un côté un petit peu balade, prime sautière à travers l'histoire, pas toujours très très rigoureuse. Là, il y avait ce mélange-là. Bien sûr, on reste marrant. Bien sûr, il y a cette légèreté, cette gaieté, cet esprit de partage qui résonne bien d'ailleurs avec l'idée de nourriture. Et d'ailleurs, c'est assez chouette finalement qu'on se retrouve sur votre antenne le jour de l'anniversaire de France Culture parce que il y a ça en commun, c'est-à-dire la tablée radiophonique finalement de tous les gens qui, au même moment, partagent ce même programme. C'est le même esprit que partager un repas. Et finalement, que ce soit depuis Cro-Magnon à Lascaux, il y a toute l'histoire de Guy de Lascaux et Millau, etc., qu'on raconte, jusqu'à manger sur la station spatiale internationale aujourd'hui, donc cette grande, grande traversée de l'histoire, France Culture l'accompagne d'une certaine façon, et la radio l'accompagne aussi. C'est-à-dire, il y a ce côté être ensemble, qu'on le veuille ou non.
Et oui, parce que c'est une histoire de l'alimentation, mais aussi de la convivialité, cette fin de l'histoire, F-A-I-M.
Ouais, c'est comment de tout temps les humains mangent et se réunissent autour de tables, pas forcément de tables, parfois ils mangent assis par terre, mais en tout cas se réunissent, se mettent ensemble pour savourer des choses, parler évidemment. La table c'est aussi l'échange et dans ce studio, ma foi, on est autour d'une table et on converse à bâton rompu. Donc effectivement, il y a des effets d'analogie entre la radio et la table qui sont assez clairs et c'est ça qu'on a voulu raconter de Lascaux jusqu'à l'espace. En passant par la commune et d'autres.
Et puis en partant de Lascaux, comme on le dit, c'est-à-dire sous la préhistoire, nous croisons les travaux antérieurs de l'un, de l'autre, et particulièrement Silex and the City.
Bon, à table tout le monde, ça va être froid. Je vous ai fait ma recette de pâtes. Attention, elles sont al dente. Tu manges pas, URL ?
Maman, il y a un vrai problème d'alimentation dans notre famille. Tu te rends compte qu'à l'aube du 40e siècle avant Jésus-Christ, on mange encore de la viande grillée à tous les repas. Mais c'est hyper cancérigène. Vous vous êtes jamais posé la question de ce qu'il y avait dans votre assiette ?
Mais mon chéri, on a des chasseurs-cueilleurs. Et dans chasseurs-cueilleurs, il y a aussi cueilleurs. Je vous ai préparé des boules coco façon homme de Pékin pour le dessert.
Tu comprends pas, maman. Là, je te parle d'un choix de civilisation, pas du menu du jour.
Oui, enfin, bon, c'est pas comme s'il y avait vraiment une alternative.
Mais c'est là où vous êtes à côté de votre époque. Ça fait des décennies que les alter-darwinistes ont développé une alimentation bio et saine. Le bio, c'est pas seulement une question de respect de l'environnement, c'est le respect de son propre corps, tu vois. À force de manger gras et carné tous les soirs, vous allez finir par tomber malade.
Ah, alors là, ça me ferait bien rire.
Silex and the City, France Culture, une radio bio, évidemment. Jules, il y a ici, avec cette évocation de Silex and the City, et puisque l'on retrouve dans La fin dans le monde, la guerre du poteau-feu, parce qu'il y a de ça, l'occasion à la fois de s'amuser, parce que c'est aussi un moyen de transmettre l'histoire, et de réfléchir, de casser des poncifs. Et d'ailleurs, le texte qui est consacré à ce moment préhistoire commence avec... La guerre du feu met le roman en disant attention, prenons du recul sur cette image de viandard qui seraient nos ancêtres.
C'est vrai que c'était un petit peu mon rayon, la préhistoire, hein, je suis dedans depuis un moment. Et en même temps, avec les recherches d'Aitor, j'ai bien vu à quel point finalement cette image du chasseur de mammouth qui fait du rôti à la broche tous les soirs était un petit peu spécieuse. Et que finalement, le côté omnivore, avant l'heure de l'homme paléolithique, il est très frappant. On a vu dans les découvertes historiques sur les stries dentaires, en fait, qui étaient aussi bien des stries verticales que des stries horizontales, qu'il y avait deux types de mastication qui correspondaient vraiment à ces aliments très divers.
Aitor.
Oui, et puis qu'en fait, à Lascaux particulièrement, on chassait très peu le mammouth, c'est-à-dire on sait toujours pas, en gros, en fait, ce que représentent ces animaux représentés à Lascaux. On a longtemps cru que c'était une espèce de garde-manger idéale.
On pensait que c'était le menu comme dans les restaurants chinois. Ouais. On voit ouais, l'image. Exactement. On choisit, on pointe ce qu'on veut sur le mur de la caverne.
Or, on a trouvé très peu d'eau, d'ossements de roc ou de mammouth. On a trouvé beaucoup de rennes. En fait, c'est sans doute le renne qui était consommé, la viande qui était la plus consommée, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Et puis, par ailleurs, effectivement, une alimentation très omnivore, des mélanges d'herbes, sans doute des herbes très âcres, piquantes. Voilà, donc effectivement, il y avait non seulement déjà une alimentation variée, mais aussi des préparations culinaires.
Avec ce travail qui nous conduit à travers les siècles, et je ne vais pas le faire, mais il faudrait lire tous les titres des chapitres.
On s'est donné sur les titres.
Ah bah, Soviète de table, voilà. Ou alors gastronomie.
La gastronomie, c'est manger avec Fidel Castro à Cuba.
Ouais, ah bah, voilà. Faut dire que Jules et moi, on s'est beaucoup retrouvés sur notre amour commun pour les jeux de mots. Lui a fait les dessins, moi les textes, et puis l'endroit où on trinquait ensemble, si j'ose dire, c'est tous ces titres où voilà, on s'en est donné à cœur joie.
Et parfois, les titres donnaient lieu à des chapitres. C'est-à-dire que, en fait, là, c'est un tome 1. Il va y avoir 3 tomes, hein, de cette somme, je dirais, sur l'histoire du monde par la gastronomie. Et donc, on en a réservé plein, mais parfois on plongeait dans un chapitre parce qu'il y avait le titre. Moi, quand j'ai trouvé Autant on emporte le ventre, je me suis dit, mais attends, il faut qu'on fasse à manger dans les plantations avec Scarlett O'Hara, par exemple.
Et le temps des conquistadors devient évidemment Aztec frites. C'est aussi ce plaisir de la découverte. C'est à travers les époques. Vous êtes, vous l'avez dit, à Hiltor, spécialiste du siècle d'or espagnol, mais là, ça vous oblige à aller partout. C'est un peu cette démarche-là qu'il y a avec l'écoute de la radio. Hein. On ne sait pas l'émission qu'il va y avoir après, mais on se laisse bercer et il y a de la découverte.
Et aller à Sauze et à Gambade, comme disait mon cher Montaigne, c'est vraiment une manière de vivre, hein, une manière d'écouter la radio aussi, effectivement. Nous, on a voulu faire une grande balade à travers les siècles. C'est vraiment la grande tablée des siècles qui se déploie. Et ouais, il y a un plaisir du papillonnage, comme un peu de la dégustation, comme ça, à prendre un petit peu dans chaque assiette.
C'est le menu dégustation. Et moi, je me souviens que, étant enfant, et pas mal de gens de notre génération à ça en partage, il y avait un programme à la télévision à l'époque où il y avait 2 ou 3 chaînes qui était comment ça s'appelait ? Il était une fois l'homme.
Ah oui.
Et on voyait dans le générique d'Il était une fois l'homme cette famille. Je crois que c'était Anna Barbera, les studios d'anime, comme ça, il me semble, une famille qui, des grottes préhistoriques jusqu'à la conquête spatiale, justement, traversait en changeant de costume au fur et à mesure du générique, qui était voilà, en armure de chevalier, en tenue Renaissance, etc. Et c'est un peu cette chose-là, cette jubilation-là, d'être partout sur Terre en même temps, cette espèce d'ubiquité à travers l'espace et le temps. Et c'est ça qui était chouette aussi, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus une histoire trop européocentrée. C'est-à-dire qu'on voulait savoir aussi qu'est-ce que c'était manger avec les Touaregs dans les pistes caravanières du XVIe siècle, manger avec les Aztèques dans la Tenochtitlan d'avant Cortés, et toutes ces dans la Chine des Qing. Donc il n'y a aucun continent qui est laissé vraiment dans l'ombre, parce qu'on a tout ça en partage. Et quand on croit qu'on est très locavore, chauvin dans notre alimentation, en fait, on sait très bien, confusément, et quand on se plonge dans l'histoire comme ça, on le découvre de manière frappante, qu'on est nous-mêmes cette espèce d'hybridation, ces rencontres, ces mondialisations avant l'heure, avec certains chocs civilisationnels, évidemment, cette rencontre dans le continent méso-américain et l'Europe, avec le chapitre Aztec Frites, justement, sur l'arrivée dans le marché de Tlatelolco, et il est complètement dingue, parce que c'est l'irruption dans notre champ mental européen de choses qu'on n'avait jamais vues.
Dans notre champ mental, et puis au fil des siècles de notre assiette, évidemment, il y a une grande révolution alimentaire au moment où les Espagnols prennent possession de la tomate, de la pomme de terre, du piment, par exemple. Rien que ces 3 aliments-là vont chambouler notre alimentation à tous. Imaginons ce que pouvait être la gastronomie italienne avant l'arrivée de la tomate. Mais imaginons, c'est encore plus vertigineux, ce que pouvaient être les gastronomies asiatiques avant l'arrivée du piment d'Amérique, qui en fait sont des arrivées récentes. Voilà, ouais. Donc c'est ça qu'on a voulu raconter aussi.
Et l'ado aujourd'hui qui fait de la junk food, qui va tremper ses frites dans son ketchup, qui va au cinéma, qui se prend un paquet de pop-corn en mangeant une glace au chocolat, ce n'est que vraiment des retombées, des éclaboussures de cette conquête et de cette destruction par Cortés du monde méso-américain.
Et de cette espèce d'appétit comme ça colossal, dévorant, ouais.
Et puis c'est ce goût de l'histoire, Il était une fois l'homme, qui a été évoqué, série française, hein, c'est Albert Barillet, c'est création française,
oui,
et avec ici tout un propos qui nous fait aimer l'histoire. Parce que vraiment dans cette démarche-là, la fin de l'histoire, c'est aussi donner l'envie d'aller plus loin. Ce n'est pas qu'une bande dessinée, il y a du texte, et c'est vraiment l'idée de donner au plus grand nombre l'accès et je l'ai bien dit, on voit la bibliographie, aux travaux les plus récents sur la question.
Ben ouais, en fait, la fin de l'histoire, c'est aussi la fin d'histoire, si j'ose dire. Donc, on a voulu faire un livre roboratif, quoi. Voilà, savoureux, où il y a à manger, où on ferme ça en disant, dis donc, j'en ai eu pour mon appétit, quoi. Voilà, donc, moi, je crois vraiment à cette analogie entre l'appétit et la curiosité. C'est-à-dire qu'au fond, l'appétit serait la nourriture, ce que la curiosité au savoir. Voilà,
Jusqu'au dernier moment, on actualisait nos chapitres. C'est-à-dire qu'à la fois, on a le banquet de Trimalcion, etc., des grands textes autour de la gastronomie, autour du fait de manger. Mais par exemple, sur Rome, il y a eu la révélation médiatique d'une découverte très récente à Pompéi, parce qu'on continue à fouiller Pompéi, à découvrir des trucs. Et notamment, ce truc qui a fait la une des journaux il y a quelques mois et qu'on a rajouté in extremis, le chapitre était déjà rédigé dans le chapitre sur Pompéi, c'est la pizza. En fait, on a découvert sur une fresque à Pompéi une représentation de ce qui ressemble à s'y méprendre à une pizza contemporaine, alors que c'était on racontait complètement une autre histoire. C'est bouleversant.
Il faut que je vous raconte, j'ai eu mon premier courrier de lectrice qui a lu la BD et qui est une chercheuse spécialiste de Pompéi, archéologue, et qui m'a félicité, donc je m'en sers pas si mal, qui m'a dit, alors plus qu'une pizza, c'est sans doute plutôt une focaccia.
Ah d'accord, précision
non, mais bien
importante.
Sûr, intransigeance, bien sûr.
Bah c'est l'esprit France Culture aussi.
Absolument.
C'est l'intransigeance, c'est la rigueur, et c'est rappeler à travers le temps, combien le rôle de la table permet de comprendre la culture d'une civilisation.
L'alimentation, d'une manière générale, et la table en particulier, sont des actes ou des outils éminemment symboliques, en fait, qui ont été chargés de sens dès leur origine. En effet, il s'agit de se rapprocher du monde, il s'agit d'ingérer les puissances qui peuvent être maléfiques ou bénéfiques, et il faut prendre des précautions. On peut, si on n'y prend pas garde, ingérer comme ça un esprit mauvais, ou au contraire, ne pas bénéficier suffisamment d'un bon esprit qu'on aurait cueilli sous sa fourchette. Donc il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. À l'heure actuelle, d'ailleurs, le repas paraît désacralisé. Il n'en est rien. Le Dieu que l'on respecte et le dieu diététique, le dieu de la santé, le dieu qui fut engendré par Pasteur et Appert, par exemple. Mais on y fait tout aussi attention. On fait attention à ne pas ingérer de choses qui pourraient conduire vers les impasses de l'obésité, les tourments du cholestérol ou tout le monde microbien qui pourrait nous contaminer.
C'est le sociologue Frédéric Lange qui s'exprimait sur France Culture dans l'émission Parti pris en 1975. Frédéric Lange, auteur de « Manger » ou « Les jeux et les creux du plat ». Vous voyez, il y avait déjà ces jeux de mots. Alors, le ton est autre, bien sûr, mais France Culture des années 1970, avec un propos qui nous rapporte à autre chose que simplement l'alimentation. On a parlé de la convivialité. Il y a le rapport au corps aussi. Ingérer quelque chose, c'est pas rien quand même. C'est faire entrer un élément extérieur dans son corps.
Oui, il y a toute une magie de la nourriture, évidemment. Il y a un chapitre sur manger avec les sorcières et tout ce que ça peut représenter de symbolique. On a toujours l'ombre, évidemment, de Lévi-Strauss. Moi, finalement, parmi toutes les écoles de pensée, j'ai toujours été relativement indépendant. En tant que ma première vie de chercheur, avant d'être dessinateur et humoriste, n'a pas été déterminée par le marxisme ou la pensée libérale. En revanche, je pense que le structuralisme et les apports des grands anthropologues ont été déterminants. Et Lévi-Strauss, c'est quand même a écrit merveilleusement sur la nourriture, le cru et le cuit, etc. Et avec cette phrase qui apparaît dans l'album.
Ah oui, en fait, Lévi-Strauss a cette phrase connue, un plat doit être bon à manger, mais doit être bon à penser, évidemment. Manger, c'est toujours ingérer du signe et de la signification. Donc c'est toujours très engageant. C'est toujours un moment magique. C'est toujours accueillir le monde en soi aussi d'une certaine manière, le faire entrer en nous et donc ça engage plein de choses.
Et il y a d'ailleurs la régulation des pensées par la nourriture. Et ça on voit parce qu'il y a pas mal de chapitres sur les dictatures, manger avec les Soviets, manger avec Castro, mais avec des États aussi qui veulent contrôler un petit peu la population. Il y a tout un chapitre sur les Ottomans. Qui raconte comment finalement le café est arrivé comme une espèce de boisson subversive, parce que contrairement à l'alcool ou à des boissons qui pouvaient abrutir les populations, c'était la pensée, c'était l'aliment politique par excellence.
Et ouais, ça, Michelet là, en a parlé pour la Révolution française, il a dit quelque chose comme, je cite de mémoire, le café était le combustible des révolutionnaires. C'est-à-dire que, en fait, évidemment, quand on boit au troquet de l'alcool, on finit par danser et par être
c'est l'assommoir, et par être
ivre. Quand on boit du café, on est excité, donc on complote. On est alerte et prêt à la subversion. Et donc voilà, le café, effectivement, a mauvaise presse dès qu'il arrive à Istanbul au XVIe siècle, et les pouvoirs officiels s'en méfient, les pouvoirs religieux et politiques.
Avec le moment Révolution française et dans la fin de l'histoire, c'est publié chez Dargaud, hein, je l'ai pas dit, dans cette moi je veux pas le qualifier, dans ce livre, parce que il y a bande dessinée, il y a essai, c'est juste un plaisir de lecture. Le moment Révolution, bah on retrouve ils n'ont pas le pain, qu'ils mangent la brioche, c'est cette mise en abîme entre notre mémoire collective et puis ce qu'on peut en faire, parce que ça se termine par manger bouger, et c'est vrai que les révolutionnaires
mangerbouger.com, ils ont fini par couper la tête de tout le monde. C'était le manière de c'est le régime, changement de régime.
Qu'il mange de la brioche, sinon pas de pain, qu'il mange de la brioche, est une phrase faussement attribuée à Marie-Antoinette, ça on le rappelle aussi, qui est sans doute tirée d'un texte de Rousseau. Bref, mais oui, effectivement, le passage sur les manger avec les encyclopédistes est très important, parce que l'utopie des Lumières voulait en finir avec la faim dans le monde. Et donc c'est un vrai enjeu. Et même le rapport au savoir d'un Diderot est un savoir d'appétence, clairement. Diderot a un rapport boulimique au savoir. C'est un immense mangeur, lui-même parle beaucoup de ses repas. Et il y a dans cette manière de papillonner dans le savoir et de vouloir tout embrasser, quelque chose d'un peu... ouais, c'est ça, d'une sorte de gourmand au travail, quoi.
Ah, c'est France Culture.
Par rapport à ce truc de Marie-Antoinette, bon, on n'est pas dans les gender studies, dans ce livre, etc., mais on s'est quand même penché sur cette incroyable, habituelle oubli des femmes ou effacement des femmes à travers l'histoire, donc dans l'histoire, dans la façon de la raconter ou de la façon de l'incarner. Et de la même façon pour la cuisine, c'est très ambivalent, parce qu'évidemment ça a été quand même les fourneaux, ça a été le domaine féminin par excellence pendant des siècles et des siècles à travers les civilisations, et en même temps les grands chefs quasiment sont toujours, jusqu'à encore assez récemment, des hommes. Et cette chose-là, on le voit dans l'histoire. Ok, on est trois vieux mâles blancs autour de cette table à parler de tout ça, mais cette préoccupation, elle a été transversale. Et on se rend compte que pour Marie-Antoinette, comme pour Cléopâtre, comme pour Catherine de Médicis, c'est-à-dire que les femmes de pouvoir, les femmes importantes, ont été dénigrées, et leur rapport à la nourriture et leurs apports à l'histoire de la gastronomie ont été... la Cléopâtre qui mange, qui dévore l'Empire romain, comme elle dissout une perle dans son verre de vinaigre, justement, pour et évidemment une légende romaine, misogyne, pour dénigrer cette grande reine. Catherine de Médicis, il y a des histoires similaires.
En fait, il y a une propagande alimentaire, c'est-à-dire qu'on accuse l'adversaire politique de gloutonnerie. Ça, c'est vraiment une constante dans l'histoire. Enfin, les Romains le faisaient très bien. Enfin, et notamment Cléopâtre. Notamment Cléopâtre a été accusé de ça. Catherine de Médicis, évidemment, le mouvement anti-italien, xénophobe et sexiste, l'a accusé d'adorer manger des crêtes de coq. Il y a même une description délirante où on la voit arracher avec les dents des testicules de coq et s'en régaler. Et vous voyez, le symbole est assez
bas de plafond. Rapport au symbole français, oui.
Évidemment, le coq, c'est le français. Et donc, elle, c'est la reine italienne qui vient dévorer les testicules. Des Français. Donc,
il y a un chapitre qui s'appelle Sonner les tartines. Hein, ouais. C'est la belle-mère d'Aitor qui a trouvé le titre.
Michel Fitoussi, je l'embrasse.
Ouais. Et qui est sur le manger avec les moines bénédictins, et où on évoque cette grande figure de penseuse un peu multicarte médiévale, Hildegarde de Bingen, qui elle justement, et parce que notre livre il est quand même rigolo, déploie notamment un remède gastronomique contre le fou rire, en fait. Contre le fou rire, rien de tel que mettre de la noix de muscade, du sucre dans du vin chaud, et ça vous guérir du fou rire. Donc si vous avez trop lu le livre, vous pouvez
préparez-le avant de commencer.
Le Glühwein à la façon Hildegarde de Bingen.
Voilà, c'est ça. On a les petites astuces de digestion. On vient d'évoquer cette histoire genrée aussi, parce que il faut le dire, hein, la place des femmes dans l'histoire de l'alimentation, mais c'est tout avec ce mépris du regard porté avec ces grands chefs et ces femmes. Ah, mais s'il y en a certaines qui sont là, elles sont importantes. Vous nous avez dit, Aitor, que vous étiez agrégé d'espagnol. Bon, ça c'est pour vous.
El huevo es un alimento de un alto valor en proteínas. Y tiene proteínas en la yema y también en la clara. Tiene 9 proteínas diferentes.
Vous reconnaissez? C'est Nitza Villapol.
C'est la Maïté cubaine. Figurez que cette dame, elle a tenu une émission de télé, l'une des plus longues émissions culinaires au monde. Je sais plus si c'était 60 ans, 5 ans, enfin je sais plus, mais elle était là avant la Révolution, et comme les Cubains l'adoraient, Castro l'a laissée. Elle a laissé son émission. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que pendant les années difficiles à Cuba, pendant la période spéciale, après la chute du mur où il n'y avait rien à manger, elle faisait comme Maïté, des recettes à la télé de pénurie. C'est-à-dire, en gros, comment cuisiner avec de la noix de coco et un morceau de mangue, quoi. Et c'est une femme fascinante. Vous pouvez trouver des images sur Internet.
Ouais, moi, j'ai découvert cette histoire de Castro, fan de glace. C'était, il avait une frénésie gastronomique de glace. Il s'est débrouillé pour qu'il y ait un des plus grands glaciers au monde au centre de la Havane, alors que les gens crevaient la dalle tout autour.
Il existe encore, ouais, Coppelia, absolument.
Et il y avait tous les parfums qu'on pouvait trouver. Et il a, en fait, mis en avant une vache qui était une ultra productrice de lait, qui avait la plus grosse productivité, comme ça, qui s'appelait Ubre Blanca, les pies blancs, et qui était érigée au rang de révolutionnaire numéro un, au-dessus de Che Guevara himself.
Ouais, c'était une espèce de Stakhanov bovin. Et effectivement, Castro se montrait beaucoup avec elle. Il a même déclaré effectivement que c'est la plus grande révolutionnaire que Cuba ait portée.
Il y a eu un deuil national, je crois, au moment de la mort de la vache.
Bah oui, parce que ici, on sent qu'il y a de la politique partout dans cet ouvrage-là, et c'est ça qui est très amusant. De la politique avec ces dictateurs, on en croise certains qui sont évidemment, comme Castro, reliés à la nourriture, mais il y en a tant et tant d'autres. C'est un plaisir aussi de dresser le tableau d'une période à travers l'alimentation. On a dit, il y a Woodstock, il y a la commune aussi.
C'est très métonymique, c'est-à-dire par le petit bout de la lorgnette de l'assiette se déploie une époque. Moi ça j'y crois, enfin je crois que c'est le point de départ du livre. C'est un signe très puissant des temps, parce qu'évidemment la nourriture est toujours déjà politique, sociologique, économique, elle engage des enjeux écologiques, de rapports de force. Et donc on peut raconter effectivement une période des conflits à travers la nourriture, les conditions pour la produire et la manière de la distribuer ou pas, quoi.
Et moi, j'aime bien ces moments qui sont des moments de basculement civilisationnel. Je pense à, par exemple, il y a un chapitre, c'est manger avec Jésus et les apôtres. Et en fait, le christianisme, c'est avant tout une espèce d'évangile de la nourriture. Jésus, comme un genre de McDo avant l'heure, qui dit « venez comme vous êtes ». Et par rapport à cette civilisation de l'Orient antique, où on se distinguait selon son appartenance communautaire par ce qu'on ne mangeait pas, les interdits alimentaires, évidemment les juifs, mais aussi bien d'autres communautés. Et là, tout d'un coup, les chrétiens ils disent « Non, non, on mange de tout, rien n'est interdit. La table chrétienne est justement l'omnivore parfaite. » Et évidemment, c'est un argument marketing de choc.
Ouais. Il y a cette phrase dans les évangiles, c'est d'ailleurs la seule fois où Jésus parle de nourriture, enfin, bon, directement, enfin, qui donne des consignes alimentaires. Il dit « Ce qui est impur, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort. » Vous imaginez le choc pour ces ouailles, quoi. Eux qui avaient vécu dans la tradition juive de l'interdit alimentaire. Donc évidemment, ce qui est impur chez l'homme, c'est les mauvaises paroles, les mauvaises pensées et pas ce qu'on mange.
Et l'autre révolution marrante, c'est les Ottomans. C'est-à-dire que c'est quand même un empire qui a régné des portes de Vienne jusqu'aux confins du Caucase, qui a vraiment mis son influence civilisationnelle sur des peuples qui étaient extrêmement disparates. Et là, pour le coup, ils ont fait changer cette espèce de trilogie méditerranéenne où il y avait le blé, l'huile, le vin, vers un monde qui était un monde de lait, de sucre, de riz, fait, qui est le monde des plaines, le monde des nomades. Et cette chose-là, c'est un choc qui n'en finit pas de résonner encore aujourd'hui. Finalement, encore une fois, pour en revenir aux ados, moi je suis très ado en ce moment, les doneurs kebab qu'on se fait entre deux cours, c'est vraiment cet héritage-là ottoman, très directement.
Il y a un plaisir un plaisir des archives, enfin, pour citer Arlette Farge, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup entendu sur votre antenne, il y a un plaisir du document, du moins. Et j'ai retrouvé un document qui est la première mention en langue française du kebab. C'est un espion bourguignon.
12e siècle, je crois.
C'est 15e siècle, début 15e, me semble-t-il, qui est en Turquie et qui dit qu'on lui sert une sorte de yaourt, une sorte de lait caillé, et avec ça, une viande que l'on découpe au fur et à mesure où elle est rôtie sur une broche. Et ben voilà, le kebab, on a donc la première mention du kebab au 15e siècle.
Avec ici tout ce jeu qui est fait sur l'étonnement, le kebab évoqué à un temps qu'on n'entend pas, avec le jeu sur les anachronismes, et ça fonctionne très bien.
Dans les dessins, c'est toujours marrant.
Dans les dessins, c'est toujours très très drôle. Je peux pas parler de sacrilège, parce que c'est pas le cas, le sacrilège, mais se moquer de ce moment, vous parlez du repas absolu que représente la scène. Sacrilège ou pas, quand Jacques Prévert rencontre Marco Ferreri.
Ils sont assis à table.
Écoutez, messieurs, nous ne sommes pas ici pour faire une orgie crapuleuse. Nous n'allons pas nous étaliser autour de cette table.
Ils n'ont pas faim.
Hein ? À toi l'honneur. On va le couper.
Ils ne sont pas dans leur assiette.
Comment tu veux couper ça ? On peut pas faire des parts. C'est trop gros, ce truc-là.
Oh, trop gros ?
Oui.
C'est tout un poème, ça.
Mais il est trop gros, ton poème.
Ils ne sont pas dans leur assiette. Mais leur assiette se tient toute droite verticalement derrière leur tête.
C'est de la merde.
Non, tu es pas sincère.
C'est un poème de merde, ça.
Mais il faut manger. Bon, je les mange tout entier. Je vais couper. Voilà.
La scène, le poème de Jacques Prévert, qui est confronté à la grande bouffe, le film de Marco Ferreri. C'est une réalisation de Thomas Beau, bricolage absolument magique. Thomas qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Et aujourd'hui, nous avons la fin. La fin de l'histoire, une histoire du monde par la gastronomie. Aitor Alfonso, Jules, c'est votre ouvrage publié chez Dargaud. Réflexion aussi sur le goût, les évolutions du goût. Alors ça, c'est toujours très intéressant hein, de voir comment d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre, et surtout à travers le temps, le goût se transforme.
Mmh. Alors, un exemple, Istanbul est entouré par la mer, on le sait. Eh ben, les Stambouliotes détestent le poisson jusqu'à très tardivement dans l'histoire, par exemple. Parce que, évidemment, on est toujours conditionné par des pratiques qu'on hérite, dont on hérite. Et évidemment, ce que disait Jules tout à l'heure, c'est-à-dire cette cuisine des steppes, elle va s'imposer. Et donc, la viande est au cœur. Pas que la viande, hein, mais en tout cas, pour ce qui est des protéines. Et donc, très peu de poisson. Voilà, étonnant quand même. Voilà.
Il y a deux histoires qui m'étonnent. Il y a cette histoire où on se dit que, en fait, la France se convertit au goût de la cuisine italienne. On sait que, voilà, les mets d'origine italienne, ou supposément, sont les plats préférés des Français aujourd'hui, avec le couscous, évidemment, à côté. Mais, et on a dit qu'effectivement, l'arrivée des Italiens à la cour de France, avec Catherine de Médicis et tous ses suivants, était justement ce grand basculement. Donc, on s'imagine que tout le monde s'est mis à manger des pizzas à ce moment-là. Alors, c'est en grande partie faux, même si, effectivement, l'appétence des Italiens pour les légumes, par exemple pour les artichauts, les petits pois, les choses comme ça, dans un monde médiéval qui mettait le paquet sur la viande et les sauces.
Les épices, ouais.
Voilà, et les épices. Et c'est quelque chose qui, effectivement, change petit à petit, évidemment, avec ce côté vertical de la cour française, du centre de Paris, puis de Versailles ensuite, comment depuis les élites infusent dans toute la société. Mais le grand choc, ça reste quand même ce moment où on n'avait rien à manger, qui est 14-18, dans les tranchées. Et c'est là où s'est forgé, finalement, le creuset de la gastronomie française. Parce qu'à Paris, on avait un peu tous les bienfaits des provinces et tout, mais ça irriguait pas le reste de la France. Mais quand un mec du fin fond de la Bretagne, du fin fond de la Provence, du Gers, se retrouve dans la même tranchée et puis reçoit, au moins, il mange rien pendant des semaines et des semaines, c'est l'horreur, c'est la mort, mais quand ils reçoivent les colis alimentaires de leur famille, eh ben, ils partagent leur gésier de canard, ils partagent leur camembert qui est devenu le grand fromage français, et l'identité gastronomique française, cette multifacette, se crée dans la souffrance de ces tranchées. Ça a été pareil pour la langue, les gens ont leur patois gallo, picard, etc., a été forgé dans le patois de la guerre et qui s'est devenu la France. Et ben la France gastronomique, elle est née comme ça, dans la boue et dans le sang.
Vous reprendrez bien une petite tranchée, c'est le titre du chapitre. Et avec, là, dans ce que nous évoquons, tant et tant d'aspects à étudier. Et c'est difficile, j'imagine, de se poser, de faire la liste. Donc, il y a Woodstock comme point de départ, on va dire, qu'est-ce qu'il mangeait à Woodstock. Et après, c'est se poser avec des périodes, des personnages. Ouais. Et il y a plusieurs volumes hein, pour cette collection « La fin de l'histoire ». On n'en finit jamais avec l'histoire. C'est ça qui est un régal.
On a l'embarras du choix. Il y a un fil très long à tirer. On voudrait en faire une trilogie. Je pense qu'on va y arriver. On est déjà en train de travailler sur le deuxième. Et enfin, on a envie de raconter plein d'autres choses qu'on a soit volontairement laissées de côté. Par exemple, là, on parle de la Rome antique, mais pas de la Grèce antique. Il y a évidemment beaucoup à dire. On a aussi envie de raconter manger à Paris pendant au 19e siècle, pendant les expos universelles. Bref, tout un tas de sujets. Mais oui, c'est une joie. C'est vraiment une joie de s'y remettre. De se réattabler, si j'ose dire, à cette BD.
Avec cette émission, le cours de l'histoire sur France Culture, à la maison de la radio, la maison ronde. Alors évidemment, ici, on tourne à rond, Jean-Paul Aron.
La cuisine française du 19e siècle est dompteuse. Elle réduit les obstacles. Elle use de violence à l'occasion. Son langage est un miroir. On y perçoit des accents de cruauté, une extraordinaire jouissance de la possession. Les raideurs victoriennes du Second Empire ne désamorcent pas, au contraire, ces opérations. Dans ces cuisines, la bourgeoisie raisonnable se déchaîne. Alors qu'elle compte chaque sou, elle s'y ruine. Elle y invite au gâchis, antichambre de la débauche. Au potage Montmorency, Urbain Dubois sacrifie 12 ailerons de dindonneau, les désosse, les farcit, les débride. Pour finir le potage à la cucie, c'est à un coup de carnage qu'il se livre.
12 à 15 minutes avant de servir, faites partir à la broche 2 estomacs de perdreau. Poussez-les vivement, aussitôt cuits, escalopez-les dans la soupière. avec une petite julienne de truffes noires et cuites. Versez le potage dessus.
Lecture d'un extrait de l'ouvrage Le Mangeur du 19e siècle de Jean-Paul Aron. C'est une lecture par Pascal Mazzotti et René Renaud dans l'émission Un livre, des voix en 1973 sur France Culture. Jules, c'est toujours intéressant de regarder les choix pris pour parler, et en l'occurrence ici c'est de l'alimentation, avec ce risque de ne parler que de l'alimentation des élites, qui laisse une trace et qui est en marge. C'est vrai que pour parler de l'alimentation des pauvres gens, se dire « ça va être tout à peu près, toujours pareil sur le temps long ». C'est ça aussi cette réflexion à avoir, ne pas faire qu'un focus sur les élites.
Alors, sur des grands moments de la vie quotidienne, c'est vrai qu'il y a des trous dans la raquette des historiens. Et puis, effectivement, depuis la micro-histoire, depuis l'histoire des matériels, on s'est davantage penché sur ce qui était autre chose que les grands romans nationaux, les histoires bataille, etc., où effectivement, il y avait ces festins qu'on mettait en avant. Et typiquement, il y a des périodes qui sont connues pour leur alimentation des élites. Je pense à Rome, Astérix et Obélix, c'est ça. C'est-à-dire que les festins des Romains allongés, en train de manger des grappes de raisin, la tête jetée en arrière. Je me rappelle ces recettes extraordinaires dans Astérix et Obélix, l'ours farci à la graisse du russe, des trucs comme ça. Notamment, il y a Astérix chez les Helvètes où ils bouffent tout le temps. Et en même temps, on s'est rendu compte, et moi j'ai découvert avec Aitor, même en étant historien, il y avait plein de choses que j'ignorais. Pompéi, c'est étonnant. Pompéi, l'éruption du volcan, elle a lieu à peu près à l'heure du déj. Donc en fait, il y a plein de gens attablés, il y a des tables servies. Et donc on a des assiettes qui ont été cryogénisées, ou plus exactement, vitrifiées par cette nuée ardente, une assiette de figues quasiment prête à être mangée, qui est restée, qui nous a été transmise jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple, le fast-food romain de l'époque, qui est le Thermopolium, c'est un endroit fascinant, en fait, où on trouve plein de choses.
À quelles sont jolies les figues de Pompéi, titre de chapitre.
Made in Aitor.
C'est le bistrot de l'époque et le peuple romain, il mange à toute heure des petites rations chaudes, boit un verre de vin et c'est incroyable. Par exemple, on connaît tous évidemment, on a l'image de ces corps conservés, enfin de ces moulures de corps conservées sous la lave. Et bien dans ce Thermopolium qui a été retrouvé, qui est une beauté, je vous invite à aller voir les images aussi, on a retrouvé un type qui, à la faveur de l'éruption, tentait de chiper de la nourriture dans une marmite. On l'a retrouvé, le couvercle de la marmite à la main. Il est mort en mangeant. Le type s'est dit, le volcan explose, mais l'appétit avant toute chose.
Ouais, mais c'est pas mal d'ailleurs. Qu'est-ce que vous feriez dans les derniers instants? Vous voyez, il y a une espèce d'explosion atomique où il y a le missile Satan qui nous a envoyé de Moscou pour rayer l'île de France en quelques millièmes de seconde. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Est-ce que vous embrassez les personnes qui vous sont chères ou est-ce qu'au contraire, vous ouvrez le frigo et vous ouvrez la boîte que vous attendiez La boîte de chocolat.
Les deux en même temps. Oui, non, mais c'est vrai que quand j'évoquais cette alimentation des élites, c'est présent bien sûr dans l'ouvrage parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais on l'a dit pour les poilus, on l'évoque pour Pompéi. Il y a aussi cette idée de ne pas faire les grands repas célèbres et les grands festins des puissants.
Jules disait, éviter l'histoire bataille, éviter l'histoire grand repas aussi, parce que ça, déjà, ça a été beaucoup fait, et puis c'est pas révélateur de la réalité de ce qu'une large secteur de la population mange. Donc on a fait très attention à tenir, quand les archives le permettent, à tenir ce fil, cet écart entre manger avec les élites, manger avec le peuple, à toutes les époques.
Et parfois, c'est en conflit. Le chapitre rigolo, c'est manger ce qui s'appelle nappe blanche et chemise noire. C'est manger à l'époque de l'Italie fasciste avec Marinetti, tête de pont du futurisme et de ce mouvement un peu qui voulait tout révolutionner, et notamment la gastronomie et son espèce d'attaque contre la nourriture populaire classique des Italiens.
Il détestait les pâtes. Il a écrit, en fait, on connaît Marinetti comme poète et théoricien des arts nouveaux, une espèce de rejet absolu de tout ce qui est antique et ancien et de la tradition. Et il a écrit un traité de cuisine qui est peut-être moins connu. Et il commence en disant les pâtes, ça suffit, basta la pasta asciutta. Pourquoi? Parce que lui, il dit que les pâtes, ça rend les Italiens lourds et bêtes. Et donc, que l'homme nouveau italien doit être léger, svelte et prêt au combat. Et que donc, il faut manger du riz italien plutôt que des pâtes. Mais c'est lié, ça, à la crise du blé aussi. En fait, ce qui est sous-jacent, c'est les crises des années 20, où l'Italie doit importer beaucoup de blé. Et donc, dans le projet mussolinien, évidemment, cette dépendance à l'importation ne l'avantage pas. Et Marinetti va accompagner ça dans une espèce de mouvement fou de surtransformation de la gastronomie italienne.
Eh ben, j'ai pour vous un chef de cuisine italienne, c'est Stefano Cucini.
Si on pouvait cultiver tout ce qui est cultivable en blé aujourd'hui, à partir du Canada, États-Unis, et même nous en Europe, les blés qu'on pourrait récolter, ça servirait largement à nourrir l'humanité entière. Ils se conservent. Maintenant, la technique, elle permet d'avoir des silos tout à fait performants. Une fois fabriqués les produits, il y a une validité actuellement d'environ 3 ans, une bonne pâte alimentaire. C'est des faciles emplois, c'est pas cher à l'achat, s'assimile bien et contient tout. Elle a tout, elle a les protéines, elle a les vitamines, il y a les enzymes, il y a la nutrition, elle est très importante. De toute façon, moi je vois déjà même l'homme qui s'en va dans l'espace, parce que finalement, là, pas tout de suite, mais enfin la société, elle devra trouver une autre ouverture. Mais dans la navette spatiale, en partant pour l'espace, il faudra amener des grains de blé.
Le chef Stefano Puccini qui s'exprimait dans la matinée des autres sur France Culture, c'était en 1988 avec, déjà l'idée que va-t-on manger dans l'espace avec les astronautes. Évidemment, le chapitre s'appelle Les Étoilés, ça ne pouvait pas être autrement. Héritier de cette longue histoire, et c'est ce qu'évoquait Stefano Puccini aussi. Manger dans l'espace.
Voilà, moi j'ai fait cette blague là dans les parties de bande dessinée de l'album où c'est dans la mission Apollo comme ça, le mec qui veut absolument imposer sa cuisine et qui en fait des tonnes à ses coéquipiers, qui dit voilà un petit plat pour l'homme, un grand plat pour l'humanité. À chaque fois il sert sa spécialité, ils en peuvent plus dans la navette.
Et c'est vrai que jouer sur ce temps long, c'est très intéressant, mais également réfléchir à l'actualité, parce que cette conquête spatiale, c'est de l'actualité, et à l'avenir, c'est ne pas se figer dans le passé.
Et puis c'est surtout comment manger en dehors de la Terre, c'est-à-dire que là, d'un coup, le grand mystère, et d'ailleurs, c'est une question que se posent les premiers cosmonautes, c'est est-ce qu'on peut digérer dans l'espace ? On pensait que en l'absence de gravité, est-ce que les muscles stomacaux vont fonctionner ? Et donc au début, les premiers cosmonautes soviétiques mangent des espèces de bouillies de viande dans des tubes de dentifrice immondes, et on se rend compte que bon, ça va, hein, même en dehors de la Terre, on arrive à manger. Et puis de fil en aiguille, comme ça, l'alimentation s'est améliorée, parce que on s'est rendu compte qu'au contraire de tout technologiser, déstructurer, lyophiliser, en fait, ce qui nous rattache, qui rattache les astronautes à la Terre, c'est l'alimentation pour beaucoup. C'est qu'en fait, c'est ce qui préserve notre humanité en milieu non terrien, si j'ose dire. Et donc, évidemment, aujourd'hui, un Thomas Pesquet mange des plats de Thierry Marx dans l'espace. Les astronautes italiens se font couler des expressos, ce qui est aussi un moment d'enjeu technologique. Par exemple, Lavazza a fabriqué, c'est pas simple, sans gravité, de faire couler un espresso, vous voyez. Donc, il y a tout un tas de contraintes. Alors, la contrainte qu'on n'a pas réussi à surmonter, c'est celle de boire des boissons gazeuses. Alors c'est un truc un peu atroce, mais en fait, sur Terre, quand on boit un coca, le liquide et le gaz se séparent. C'est ce qui fait que parfois, ça peut provoquer des rots, notamment. Le gaz s'évapore. Mais sans gravité. Il n'y a pas cette distinction. Et donc, ça provoque un truc horrible que la NASA appelle des rots humides. Et oui, malheureusement. Et donc, elle déconseille très vivement de boire des boissons gazeuses dans l'espace. Voilà.
Parce que ces cons d'Américains, quand ils vont dans l'espace, ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer à manger n'importe quoi comme ils ont l'habitude de faire. Et en fait, en cachette, dans une des missions spatiales de la NASA, il y a un des mecs, pour faire plaisir à son coéquipier, il amène du corned beef dans sa poche. Ouais. Et en fait, ils ouvrent ça et ils n'ont pas prévenu Cap Canaveral qu'ils allaient faire ça. Et panique à bord, ils ont eu un blâme, une réprimande terrible, en fait, ouais, de la part des scientifiques en disant, mais vous, si ça se trouve, vous êtes en train d'introduire une maladie dans la navette, tout le monde va mourir avec votre corned beef, on l'a absolument pas étudié, donc ça n'a jamais été refait.
Ouais, effectivement, c'est connu, hein, un sandwich passager clandestin dans l'un des premiers vols à deux dans l'espace, et qui a provoqué un tollé politique ensuite, parce qu'ils avaient peur, en fait, que les miettes en circulation dans la cabine rentrent dans les circuits et fassent échouer la mission, ouais.
Ah, c'est un guide pratique, en fait. Désormais, si nous partons dans l'espace, il faut bien se dire qu'on va pas boire de boissons gazeuses.
Ouais. Ouais, oui, voilà. Et puis il faut se dire aussi qu'on a beau être astronaute, on n'en est pas moins humain, et que quand même, un petit sandwich, ça fait quand même du bien. Voilà, et ça, c'est aussi un peu touchant. Ça humanise, ça incarne les choses.
Et puis cette histoire-là, celle de la fin de l'histoire, c'est une histoire d'innovation.
Où on mangeait, où on mangeait pas. Où on mangeait des dattes écrasées, mélangées avec la semoule grillée.
Celle-là, c'était le biscuit du marin, c'était le biscuit du chamelier qui traînait, qui est plein de sable. Ça devenait dur comme un caillou, très nourrissant. Un verre de lait de chamel ou un demi-verre de lait de chamel.
C'est bon le lait de chamel ?
C'est pas bon, mais c'est très nourrissant et c'est... Je parle de ça, c'est la nourriture en dehors de l'Oasis. Hein, comme on est parti 13, 9 mois sur 12, on est dehors. De temps en temps, on attendait qu'il y ait un moment où on trouve un point d'eau, une bonne chasse, ou un agneau, ou du gibier à plumes, ou un petit mouflon, ou une gazelle. Et là, on faisait la fête. Et c'est, alors là, on fait un feu, on coupe notre viande en salle, on poivre, on a toutes les épices, on a toutes les herbes sèches avec nous, et on mange très peu parce que l'estomac, il s'est rétréci. La bête, il faut la manger parce qu'il n'y a pas de frigo, pas de congélateur, il n'y a rien du tout. Donc, on a 2-3 jours à se gaver de viande cuite de 3-4 façons différentes. On fait une fête.
France Culture, le cours de l'histoire.
Quand il y a du vent de sable, on ne peut rien cuisiner.
Xavier Mauduit.
Le sable rentre partout, partout, partout.
On vient d'entendre Wally Chouaki qui se trouvait dans ce moment sensationnel que sont les nuits magnétiques de France Culture, en l'occurrence ici c'était en 1987, avec un homme dont il faut le citer le nom, c'est Yann Parentohen, réalisateur de ses créations radiophoniques, les nuits magnétiques, l'innovation, l'histoire de la gastronomie, l'histoire de l'alimentation, c'est aussi une histoire d'innovation et on est surpris sans cesse de voir l'ingéniosité de nos ancêtres pour trouver à manger et surtout adapter ce qu'ils ont trouvé.
Oui, les milieux extrêmes comme justement le monde du désert, on en parle et... notamment avec ces inventions extraordinaires des Touaregs pour justement ces grandes caravanes qui pouvaient regrouper quand même énormément d'hommes et d'animaux. On pouvait pas se transformer en chameau, mais on avait justement notamment avec le mil qui est quand même la céréale qui permet d'avoir des rations de survie, qui permet les boules de mil ensuite qu'on délaye avec tel ou tel liquide permettent d'aller très très loin jusque à l'arrivée de l'autre côté du désert à Tombouctou qui est un peu la Mecque des foodistas médiévaux subsahariens parce que c'est l'endroit où toutes les gastronomies se rencontrent du monde de l'Afrique subsaharienne, du monde de l'Afrique du Nord et on l'a oublié comme capitale gastronomique.
Et puis il y a aussi une autre invention de Dieu si j'ose dire, c'est la date. C'est-à-dire la date et les dates sont importantes dans cette histoire. Si vous me passez l'expression.
Dans le cours de l'histoire, vous avez raison de le rappeler.
L'histoire fait date.
Et donc évidemment, la date, ce nutriment incroyable, plein de sucre, qui est une espèce d'aubaine. Hein, dans le Coran, on raconte que Dieu aurait créé la date avec la même glaise avec laquelle il a créé Adam. Donc on est vraiment là dans un fruit divin. Quoi. Et dans un fruit, on comprend pourquoi il a été divinisé. Parce qu'il est absolument indispensable pour la survie en milieu très hostile comme ça. Quoi.
Et puis c'est une histoire de rencontre, cette histoire-là, parce que partout, on le voit bien, il y a ces aliments liés à une civilisation, mais qui se déplacent, et on l'a dit, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est une histoire mondiale, ça ne peut être que mondiale, cette histoire de l'alimentation.
Oui, c'est une percolation qui aujourd'hui est intéressante dans le contexte d'ultra-conflictualisation de nos sociétés. Et voilà, ce choc des civilisations,
Utiliser un mot que vous n'aimez pas utiliser.
Utiliser un mot de ces historiens anglo-saxons, voilà, dont on se moque un peu dans notre titre d'album, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être quand on parle de gastronomie et d'histoire vue par ce prisme-là. Et on se rend compte qu'on partage beaucoup plus qu'on ne voudrait faire. On voit, voilà, c'est-à-dire que sortir une bande dessinée, un peu de connaissances comme ça et d'humour dans un tel contexte très très contemporain de ces dernières semaines, on le voit, tous les gens, les créateurs de culture, les gens qui sont dans le monde de l'imagination et du plaisir, sont un petit peu désemparés face à la terreur et à l'horreur qui nous entoure. C'est difficile d'être autour d'un plateau comme ça à la radio, alors qu'on sait le fracas et les larmes et la mort qui rôdent autour. Et pourtant, il y a cette pulsion de vie là qui est importante. Et voilà, j'ai perdu un peu le fil de mon truc. Et cette histoire de la nourriture, ouais. elle donne un petit éclair, une espèce de petit éclat de vie. Dans le conflit israélo-palestinien, une des choses qui a focalisé finalement l'attention à certains moments, c'était qui est le père du houmous. Est-ce que c'est les Israéliens? Est-ce que c'est les Palestiniens? Et cette notion-là de houmous comme zone de conflit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer une solution à deux houmous comme on créerait une solution à deux États, a vraiment agité les gens. Et c'est finalement autant d'étendards dans les guerres de civilisation qui montre que c'est... On est unis, qu'on le veuille ou non, par ce qu'il y a à l'intérieur de notre estomac.
Une histoire mondiale, c'est vrai, et une histoire d'identité. Mais ce n'est pas incompatible. C'est ça aussi qu'il faut rappeler sans cesse. C'est la grande mangeaille de Chine, par exemple. C'est quoi cette grande mangeaille de Chine?
C'est évidemment un jeu de mots avec la grande muraille de Chine. Et mangeaille, c'est un mot qu'on utilisait très fréquemment encore au XVIIIe siècle pour dire la nourriture, l'alimentation. Donc on a osé le jeu de mots parce que vous avez compris qu'on aimait ça.
Eh bien oui, c'est les civilisations, l'identité, le riz. Ouais. Mais toutes ces identités qu'on évoque vont très bien avec la mondialisation et ça, enfin la mondialisation au sens ces échanges et cette communauté mondiale.
Universalisation du goût et des produits, hein, parce qu'effectivement on cite des milliers d'ingrédients farfelus ou d'autres très communs. En fait, c'est pas le cours de l'histoire, c'est les courses de l'histoire.
On fait les courses avec vous et puis sur France Culture, faut rappeler, il y a toujours eu tant donné à l'analyse des phénomènes liés à l'alimentation, que ce soit dans les émissions d'histoire, les lundis de l'histoire, la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin, chez nous aussi dans le cours de l'histoire, et puis l'émission Les Bonnes Choses de Caroline Brouet qui parle d'alimentation. C'était quoi le grand plaisir, Jules, de travailler sur ce sujet-là? C'est de s'amuser à détourner un texte, de le rendre accessible et de le transformer en dessin, ou pour vous simplement de découvrir des univers pour certains que vous ne connaissiez pas encore?
C'était un petit peu des deux, et aussi graphiquement, de se plonger dans des archives, parce que les archives, les sources historiographiques de contenu, Aitor les a vraiment triturées dans tous les sens, cuisinées, fait revenir, frites, voilà, à la plancha. Et ça a été un peu la même chose pour, voilà, j'avais jamais dessiné, moi je rêve de faire une série après Silex and the City ou 50 nuances de grec qui se passerait pendant les guerres de religion. Parce que pour moi, le dress code absolu, c'est ce moment de basculement entre le 15e et le 16e, où on a des fraises extraordinaires, des pourpoints à perles, à plumes, toutes les matières sont utilisées, les hommes sont maquillés, portent des boucles d'oreilles,
ouais, les brocards,
à la fois ultra virils, des combattants gantés de cuir, et en même temps avec du velours, du mascara, et ce truc-là à dessiner, c'est super rigolo quand même. Et ça, j'avais jamais eu cette occasion. Évidemment, les dynasties Manchu, Qing, les samouraïs, je crois que j'avais jamais dessiné des uniformes de samouraïs. Il y a tout un chapitre saké soirée, en fait, parce qu'évidemment, le Japon, c'est quand même un gros morceau pour la gastronomie.
Et il faut dire que les dessins de Jules sont humoristiques et plein d'esprit, mais ils sont aussi très précis dans la manière de rendre le costume d'un soldat.
Ouais. Alors, c'est pas non plus tardi, mais. Ouais.
Non.
Mais quand même, c'est vrai que les boutons de manchette des états-majors prussiens, par exemple, pendant le siège de la Commune, j'ai cherché des planches entières de savoir, selon les grades, comment étaient les shakos et les redingotes des officiers prussiens. C'est un truc. En fait, j'aurais pu bâcler, personne ne s'en serait rendu compte, mais en fait, j'ai adoré faire ça.
Ben oui, c'est ça, le plaisir de la précision. Et puis, dans cette précision-là, il y a tout ce travail de l'historien Aitor Alfonso dans les sources que vous citez, dans toute cette bibliographie. Il y a toujours cette limite qui tient au goût. C'est-à-dire qu'on aimerait bien goûter quand on part dans l'Antiquité, quand on part à d'autres moments. Et ça, c'est la limite toujours du vécu.
Eh bien, écoutez, vous pourrez peut-être, parce qu'on a quand même très envie avec Jules, d'organiser des festins historiques. Figurez-vous, des repas historiques. On essaye de reconstituer de manière plus ou moins modernisée, quoi, des repas. Donc on en reparlera peut-être.
Et ben voilà, c'est ça. Donc il y a tout à organiser. Et Jules, ce sera l'occasion de s'habiller avec un pourpoint, une fraise gigantesque.
Ouais, j'ai envie de fraise. Je dois être enceinte.
Il s'habille comme ça quand il vient pas à la radio, faut le savoir. Hein. Chez lui, il est vraiment en redingote. Hein.
C'est cette fin de l'histoire, une histoire du monde par la gastronomie que vous nous avez présentée aujourd'hui, Jules Aitor Alfonso. Une bande dessinée qui est un livre, qui est en fait juste un ouvrage de plaisir. Cessons de mettre des catégories sur bande dessinée ou pas bande dessinée.
De même que pour les lecteurs, finalement, parce que en fin de compte, les enfants, les parents, les grands-parents, qui en général ne partagent plus grand-chose en termes de culture, c'est-à-dire chacun est algorithmiquement programmé à avoir son petit frichti, sa portion individuelle. Et ben, ce genre d'album, c'est rare. C'est la bande dessinée le permet encore aujourd'hui, ça, contrairement à pas mal d'autres arts, circule dans une famille, s'offre, et en fait, très souvent, on se rend compte que ce genre de livre, au pied du sapin, est offert à la fois aux enfants par les parents et aux parents par les enfants, et parfois il y a le même livre.
Ben voilà, c'est ça, c'est ce plaisir simplement de transmettre les savoirs. Merci vivement à tous les deux, c'est publié chez Dargaud, La Fin, F-A-I-M, de l'histoire. Merci beaucoup à tous.
Bon appétit.
Merci à vous.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
Comment les origines africaines de Pouchkine ont-elles pu influencer son œuvre ? Alexandre Pouchkine, né en 1799 et mort en 1837, est considéré comme le plus grand écrivain de Russie parce qu'il a donné ses lettres de noblesse à la langue russe en ouvrant la voie à une grande littérature nationale de portée universelle. Les spécialistes savent depuis longtemps que Pouchkine avait des origines africaines, mais cet aspect de sa biographie était resté dans l'ombre, alors qu'aujourd'hui elle fait l'objet de nombreuses publications. On peut se demander si cet engouement est justifié ou s'il s'agit d'une concession à la mode de notre temps. Cette ascendance africaine est en effet assez lointaine, puisqu'elle remonte à Abraham Hannibal, l'arrière-grand-père d'Alexandre Pouchkine, du côté maternel. Né en 1696, cet ancêtre africain, sans doute originaire du Cameroun, fut amené à la cour de Pierre le Grand à l'âge de 9 ans. C'était la mode, dans le milieu aristocratique de l'époque, d'avoir un « négrillon », comme on disait, dans son personnel. Ces enfants nègres étaient triés sur le volet à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, qui était aussi le lieu de destination d'une très importante traite esclavagiste en provenance notamment de l'Afrique centrale. Mais Pierre le Grand, ayant pris en affection le jeune Abraham, il en fit son filleul. En 1717, il l'envoya en France, afin qu'il puisse recevoir la meilleure éducation du monde. Abraham rejoignit l'armée française en 1718, puis revint à Moscou pour travailler comme ingénieur. Père de 11 enfants, il fonda l'une des plus brillantes dynasties de la noblesse de service instituée par Pierre le Grand. La mère d'Alexandre Pouchkine, issue de cette famille, épousa Sergueï Pouchkine, qui descendait, quant à lui, de l'une des plus illustres familles de la noblesse russe. Bien qu'il ait appartenu à un milieu social très privilégié, Alexandre Pouchkine a souffert dans son enfance parce que sa mère l'a rejeté à cause de son apparence physique. Sa peau mate, qui tranchait sur la noblesse blanche des physionomies au milieu desquelles il évoluait, trahissait en effet ses origines africaines. Il paraît que le petit Alexandre en avait honte, à tel point qu'il détestait l'image que lui renvoyaient les miroirs. La stigmatisation de son apparence physique joua néanmoins un grand rôle dans son destin d'écrivain, car pour échapper au regard des autres, le jeune Pouchkine se réfugia dans la lecture. Étant donné qu'à cette époque, la noblesse russe s'exprimait en français, Pouchkine devint parfaitement bilingue et sa familiarité avec la culture française devint telle qu'on le surnomma le Françouz. Lorsqu'il accéda à la notoriété, Alexandre Pouchkine put entreprendre ce que les sociologues appellent un retournement du stigmate. Il fit alors de ses origines africaines un motif de fierté. Dans son roman appelé « Eugène Onéguin », il évoqua ses racines africaines en parlant même de « mon Afrique ». Il se lança ensuite dans l'écriture d'un roman sur son arrière-grand-père Abraham qu'il laissa inachevé. C'est la preuve que les origines d'une personne peuvent influencer son œuvre, mais pas toujours dans le sens d'une transmission directe, d'un héritage ou d'une culture.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture préparé par celles et ceux qui connaissent les bonnes recettes d'une émission savoureuse. Jeanne Delecroix, Toscane Judès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maïwen Guizhou, merci à Lina, à l'Institut National de l'Audiovisuel qui nous a plongé dans ses archives de France Culture. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.